Je voudrais vous parler de la toute-puissance de Christ ce matin. Vous avez dit amen. Mais est-ce qu'on prend toujours bien conscience de la toute-puissance de notre Seigneur? On va lire ce texte dans Luc au chapitre 4, versets 31 à 37. Il dit « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Bon, jusqu'à maintenant, il dit tout juste, hein. Sauf que c'est un démon. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme !» Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans ne lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent !» Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Vous savez que Paul un jour a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et quand je lis ce texte, je me dis « Bah, Seigneur, si je veux être comme toi, il y a du boulot. Il y a du travail. Il va falloir que tu me saisisses, il va falloir que tu m'emmènes un peu plus loin, il va falloir que tu me parles, il va falloir que tu m'enseignes. Et puis il va falloir aussi que tu fasses tomber en moi certaines pensées, certaines limitations que j'ai. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand je vis ma vie chrétienne, eh bien je la vis avec des limitations humaines. Et donc, avec ces limitations, eh bien, je me retrouve confronté à moi, face à moi-même. Et c'est là où est le problème. Parce que le Seigneur voudrait que nous arrêtions de nous regarder le nombril, que nous levions un peu les yeux vers lui, et que nous disions, Seigneur, si je suis ton enfant, alors fais-moi voir les réalités d'antan. Ce matin, on a chanté un chant qui disait que... le frère qui nous a lu ce texte, excusez-moi, à la Sainte Seine, où le Seigneur va chercher les choses du passé pour les ramener au présent. Écoutez, sincèrement, je vous lis ma pensée. Moi, j'en ai marre. Sincèrement, j'en ai ras-le-bol. Que les miracles, les guérisons, ça se passe toujours à l'étranger ou il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. C'est vrai, jusque-là. Pourquoi ? Ben parce que la parole de Dieu, elle est comme Dieu. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de raison qu'elle change. Et ce que nous avons vécu dans le passé, il n'y a aucune raison qu'on ne le vive pas aujourd'hui. Vous savez, à chaque séminaire, à chaque convention où on va, on nous répète, on nous dit, voyez, on a rencontré le frère untel qui est président des assemblées de Dieu de alors Cuba, Argentine, je ne vous cite pas tous les pays dont on nous a fait part. Et ils nous disent tous la même chose. On a les yeux fixés sur la France. On prie pour vous parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Bon Seigneur, ça fait 30 ans que je suis converti. Ça serait temps qu'il se passe quelque chose quand même. J'ai pas envie que, alors que je sucrerai vaillamment les fraises à 99 ans, si j'y arrive, que ça soit encore une promesse, quoi. Tu vas venir et tu vas faire des miracles et des guérisons. Je voudrais que ça se passe encore de mon vivant, si je peux exprimer ça, Seigneur, devant ta face. Encore faut-il rester dans les clous. Le problème, en fait, si vous voulez, avec nous les hommes, c'est que on a du mal à trouver les limites. Alors je m'explique. Je disais aux frères tout à l'heure en discutant, parfois, je dis souvent à l'église de Vitrolles, vous savez, la vie chrétienne, c'est ou une corde sur laquelle on marche, et là, c'est ni à gauche ni à droite, sinon on tombe. Et ça, je parle des doctrines fondamentales établies. Vous prenez le Pentecôte, vous avez les 12 vérités fondamentales des assemblées de Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elles sont des assemblées de Dieu, ces 12 vérités fondamentales, point barre. C'est la parole. Bon, elles ne sont pas que des assemblées de Dieu. Et puis après, dans la vie chrétienne, il y a le chemin avec un balisage à gauche et à droite, où le Seigneur n'a pas dit spécifiquement une chose établie, spécifiquement, et où là je peux aller ou à gauche ou à droite, mais en restant entre les balises. Bah, on a pris la Sainte Seine. Où voyez-vous qu'il y ait un texte qui nous dise, je ne sais pas s'il faut prendre comme ci ou comme ça, avec qui et sans qui. Oui, il y a des textes qui nous disent, il y a une balise. Il faut s'éprouver soi-même. Il y a une autre balise qui va nous dire que quand je prends la Sainte Cène, bah, j'annonce le retour du Seigneur. J'annonce sa mort, j'annonce sa résurrection, j'annonce son retour. Je suis un témoin vaillant et vivant du Seigneur. Voilà, toutes ces choses, c'est comme des balises dans lesquelles je ne dois pas sortir. Mais après, le Seigneur ne s'est pas prononcé de manière intransigeante, comme par exemple il l'a fait par rapport à l'adultère. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est une corde. C'est ni à gauche, ni à droite. Je ne peux pas jouer avec mon couple, parce que sinon, je vais me payer des conséquences gravissimes. Quand Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, il est venu en démontrant la puissance du ciel. Et je vais même rajouter la toute-puissance du ciel. Il est venu avec des miracles, avec des guérisons. Ici, dans le texte que nous avons lu, même les gens s'étonnaient de ce que sa parole était autoritaire vis-à-vis des puissances démoniaques, bah parce que, tout simplement, les Juifs avaient perdu de vue, les Juifs religieux, j'entends, avaient perdu de vue la capacité et le pouvoir que Dieu avait donné aux hommes, celui de rejeter le mal et de choisir le bien. Là, ils l'avaient oublié. Et ils avaient oublié que dans cet état de cœur de rejet du mal et de l'acceptation du bien en Christ, enfin, bon, là je fais un anachronisme, mais à l'époque c'était en Dieu qu'il disait, eh bien, Dieu leur communiquait le pouvoir du ciel. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. C'est dans l'Ancien Testament, ça, c'est pas dans le Nouveau. Et quelque part, moi je suis petit enfant de Dieu, petit bébé. Moi, face des fois à la parole, je me dis, mais t'as encore rien compris. Remets-toi l'ouvrage, là. Repioche un peu, là. Parce que t'avais pas compris ça. Alors que tu l'avais lu ce texte 1000 fois, peut-être. Et puis là, voilà, le Seigneur nous parle. Et puis le Seigneur me parle et me dit, voilà, voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ah bon, Seigneur, je n'avais pas compris comme ça jusqu'à maintenant. Ben oui, mais voilà, c'est Dieu. C'est sa parole. Elle est vivante. Et encore aujourd'hui, elle est capable de nous surprendre. Je voudrais qu'on voit un peu quelle était la puissance de Christ, comment elle s'établit la puissance de Christ, avec un parallèle que nous allons faire entre Christ et nous. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Jusqu'où va l'imitation? Première chose que nous allons voir, c'est le pouvoir de faire la volonté du Père. Christ avait ce pouvoir de faire la volonté du Père. Il est dit, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon. » Et moi, je rajoute « et nous ». Bon, dans le ciel, j'admets, je n'ai pas grande capacité à intervenir dans le ciel. Mais qu'en est-il de la terre? Ben sur la terre, j'ai le pouvoir de dire oui ou j'ai le pouvoir de dire non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du diable, me dit la Bible. Donc quelque part, vous voyez, là, il y a une balise qui vient de s'établir. C'est que ma parole, alors ça nous a été rappelé dans le texte de l'Ecclésiaste, ma parole, bah, elle doit être d'or. On dit que la parole est d'argent. Non, moi je dis ma parole, elle doit être d'or. C'est-à-dire que je dois parler en fonction de ce que me dit le Seigneur, pas en fonction de ce que j'ai envie de dire. Et quand, en tant que pasteur, je passe derrière le pupitre, bah, je m'assure au maximum, bon, excusez-moi, je suis qu'un homme, hein, des fois je faille un peu, ma langue fourche, mais j'essaie de trouver au maximum la pensée de Dieu. Ma prière, c'est Seigneur, si même tu veux couper ma bouche et que tu veux parler à ma place, bah, écoute, fais-le. Parce que je sais que ça sera nettement mieux fait que moi, tellement mieux fait que moi. Je me suis trouvé dans une situation, alors excusez-moi, ma femme me dit que je radote, hein, donc bon, maintenant ça y est, j'en ai fait mon deuil. Je ne sais pas si la dernière fois que je suis venu, je vous avais déjà raconté ce témoignage. J'étais dans la rue avec une sœur, on faisait de l'évangélisation, on faisait un sondage sur Dieu, et là il y a une femme qui s'approche avec un landau et un bébé dedans, une femme d'un peu plus de 60 ans, à vue de nez comme ça, et puis elle s'approche, et je lui dis, voilà, je fais un sondage sur Dieu, est-ce que vous voulez répondre? Elle me dit, ah, me parlez pas de Dieu, hein. Parce que Dieu, il m'a pris mon mari et il m'a pris ma belle-fille. Alors, ne me parlez pas de Dieu. J'avais mon petit sondage. Et je me suis trouvé, mais alors là, dans un état de confusion. Voilà, je peux pas dire autrement. Parce que je me suis dit, si je lui dis, bah, je compatis à quoi ? Je la connais même pas, cette femme. Je sais même pas d'où elle vient, d'où elle est. Je la rencontre juste dans la rue, là. Je me trouve en face d'elle, je suis là, et il y a une pensée, là, dans ma tête. Je vois cette femme morte. Je me dis, Seigneur, donne-moi une parole de vie pour elle, parce que si tu lui donnes pas une parole de vie à l'instant, là, elle est morte. Elle est détruite. Et alors, je suis pas un mystique, hein. Ne vous y trompez pas. Ça m'arrive pas tous les quatre matins, ce que je vais vous raconter. Là, je sens comme si le Seigneur me prenait les yeux et les braquait sur le landau. Ça fait un petit peu bizarre. Et là, je m'entends dire. C'est comme si j'étais à l'extérieur de moi et ma bouche parle toute seule. Ça fait aussi un peu bizarre. Et là, je m'entends dire, un être s'en va, un être arrive et celui-ci est la lumière de votre vie. Genre de choses que vous répétez tous les matins en vous levant, bien sûr. Et là, je vois la femme qui fait un bond en arrière comme ça. Elle me dit, mais vous êtes qui, vous ?
Moi ?
Ben, je suis élève à l'école biblique, pourquoi ? Elle me dit, mais vous êtes un ange ?
Non.
Non. Je lui dis, mais pourquoi vous dites ça ? Elle me dit, mais comment vous savez que je l'appelle la lumière de ma vie, cet enfant ? Alors j'ai compris, bien sûr. J'avais un doute, mais là, maintenant, j'avais bien compris que le Seigneur lui avait donné une parole en direct, de cœur à cœur. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais écoutez, c'est pas moi qui ai parlé là, c'est le Seigneur qui vous a parlé directement, pour pas que vous restiez dans cette pensée, que vous restiez morte avec votre mari et votre belle-fille. On a parlé pendant une heure avec cette femme. On lui a remis un évangile, on lui a parlé du Seigneur Jésus, et je me souviens même encore de son fils. Bah oui, le fils, il était en protection, il avait perdu son papa, il avait perdu sa femme, donc il était un peu en protection. Et puis de la fenêtre de l'immeuble, là, il avait vu que j'étais en train de parler avec sa maman et que ça durait un peu de temps. Donc d'un seul coup, je vois une espèce de 1m92 et 100 et quelques kilos quoi, qui m'arrive dessus. Et vous savez, quand vous êtes en évangélisation, vous ne savez pas toujours comment les gens sont bien lunés, quoi. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis il arrive, il dit, il t'embête le monsieur ? Et je vois ce petit bout de femme qui se retourne, puis qui lui met la main sur la poitrine, qui dit « Non, il me parle de Jésus. » Vous savez, je ne suis pas persuadé qu'on soit conscient, vraiment, 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 vraiment conscient de ce que Dieu fait de nous. À l'origine, nous étions éternels dans le jardin d'Éden. La preuve en est, c'est que Dieu a condamné l'entrée de l'Éden. Et je rajouterai comme si l'homme était capable d'y retourner. Il a condamné l'entrée de l'Éden avec des chérubins et des épées flamboyantes, vous relirez le texte, dit-il, afin que l'homme ne mange pas du fruit de la vie et qu'il soit éternel comme nous. Quand je lisais ce texte, je me disais, mais de quoi Dieu avait-il peur ? Si tant est que Dieu puisse avoir peur. Vous savez, des fois, dans nos pensées, on est un peu limité. Hein. C'est au tout début, comme ça, je pensais comme ça. Je me dis, mais de quoi Dieu avait-il peur ? Mais vous savez que j'ai relu un texte dans les psaumes qui affirme que nous serons, une fois bien sûr que nos corps seront glorifiés, que nous serons au ciel, nous serons comme des dieux. Je ne suis pas persuadé qu'on ait compris exactement ce que Dieu a conçu en nous. Alors, je ne suis pas là en train de vous dire, allez, vous êtes plus que Dieu, là. Non. Il faut bien tout remettre dans le contexte. Sur la terre, nous ne sommes que des hommes, et je dirais des hommes périssables. Nous allons périr. On est bien au clair là-dessus, hein. On n'est plus éternel. C'est fini depuis le jardin d'Éden. On n'est plus éternel, sauf si on donne notre cœur à Jésus-Christ, et que nous tombions sous la promesse de Christ. Croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si ça n'était pas, je vous l'aurais dit, et je m'en vais vous préparer une place pour que vous soyez avec moi pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il nous redonne l'éternité de l'Éden que nous avions perdu. Mais jusque-là, nous sommes denrées périssables. Eh. D'ailleurs, dès qu'on se regarde le matin, dans la glace, on s'aperçoit bien que c'est périssable, le bonhomme. Les rides, les dents qui tombent, etc., etc., hein, voilà, bon, Allez. Vous êtes beau, hein ? Mais au lever, si vous êtes comme moi, c'est pas toujours au point. Voilà. Dieu nous a donné cette capacité de dire oui ou de dire non. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Dis oui à la vie. Dis oui au Seigneur. Dis oui à la grâce de Dieu. Mais je te laisse libre de dire non. Parce que je ne veux pas que tu sois comme un robot, téléguidé. Je veux que tu aies ce choix de dire oui ou de dire non. Par contre, ce que je soulignerai aussi, c'est que en tant qu'homme périssable aujourd'hui, Dieu nous a donné un autre pouvoir, et un pouvoir majeur, le pouvoir de donner la vie. Alors, tout de suite, je lis dans vos yeux que vous pensez au bébé. Non, ce n'est pas ça dont je parle. Oui, bien sûr, mais je dirais, qu'est-ce qui nous différencierait des animaux si c'était ça, notre véritable pouvoir ? Les animaux aussi font des bébés. Enfin, ils font des petits. Non, ce qui nous différencie, c'est que nous, on a la capacité de produire la vie éternelle dans le cœur de notre prochain. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et pourquoi ? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons la capacité de changer des vies. Dieu nous a donné cette capacité de transformer des vies. Vous allez dire, mais non, c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Oui, mais il le fera, et c'est la volonté de Dieu, au travers de votre témoignage. Et c'est là, excusez-moi d'être familier, où il ne faut pas se planter. Parce que notre témoignage, il est vu, entendu, pesé, évalués par tous ceux qui nous entourent et qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Ça vous est jamais arrivé qu'un inconverti dit « Ah, tu te dis chrétien, et puis tu fais ça, et tu dis ça. » Ça vous est jamais arrivé ? Ben si, moi ça m'est arrivé, à ma grande honte, mais bon. Et d'un seul coup, vous prenez conscience que vous êtes enfant de Dieu. Les autres vous considèrent comme enfant de Dieu. Vous, vous avez un peu de mal avec ça, mais eux, ils s'y trompent pas. Et que dire de la personne qui vient vous voir ? Alors moi, je l'ai connu ça dans mon entreprise. Une jeune femme, j'avais donné ma démission, je devais rentrer dans le ministère, et cette jeune femme, elle vient me voir, elle pleure devant moi. Je dis, tiens. Elle pleure devant moi et me dit, mais avec qui je pourrais parler maintenant ? Alors je lui dis, mais pourquoi tu dis ça ? Il y en a plein d'autres, je ne suis pas tout seul. Elle me dit, mais non, les autres, ils ont toujours des pensées derrière la tête. Avec toi, au moins, je me sentais bien. Quand je parlais avec toi, je sentais qu'il n'y avait pas de pensée derrière la tête. Ouais, je suis marié, bien marié, ça me suffit. Non, je dis ça parce que, quelque part, il faudrait un peu, dans nos sociétés, remettre au goût du jour la beauté, mais surtout l'importance du mariage. Puisque même dans nos églises, ça divorce. Malheureusement. Malheureusement. Vous savez, il n'y a rien de pire en tant que pasteur que d'entendre dans un couple les deux qui disent « De toute façon, moi, je ne fais plus d'efforts. » Je ne sais pas où vous avez... Moi, je leur ai dit, hein, je ne sais pas où vous avez lu ça. Ce n'est pas biblique ce que vous êtes en train de me dire. Un chrétien, ça fait des efforts jusqu'à la fin. Et ça sauve son couple jusqu'à la fin. On a eu un témoignage, là, récemment, une jeune femme qui venait à l'église depuis... ça faisait 2 ans maintenant. La première fois qu'elle est arrivée, j'ai pris un peu de renseignements hein, en tant que pasteur. C'est normal, on veut savoir un peu à qui on a affaire. Donc je lui ai demandé si elle était convertie, si, etc., etc. Bon, elle me dit qu'elle n'était pas baptisée, mais qu'il fallait qu'elle rentre à la maison parce que son mari l'attendait et que lui, par contre, il n'aimait pas qu'elle vienne à l'église, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, je lui pose la question, mais je lui dis « Mais vous êtes mariée ?» Elle me dit « Non, on n'est pas mariés, on vit en concubinage. » Alors je lui explique, je lui dis « Vous savez, la parole de Dieu, elle est claire là-dessus, il faut respecter les lois du pays. » Et la loi en France, c'est de passer devant monsieur le maire. C'est très simple, hein, 2 témoins, vous passez devant monsieur le maire. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Puisque de toute façon, ça fait déjà des années que vous vivez avec cet homme-là. Une régularisation, si vous voulez être en accord avec le Seigneur, c'est indispensable. Voilà, je lui tiens ce discours-là. Et elle me dit, ah oui, mais vous savez, c'est compliqué, il ne veut pas se marier, et puis etc., etc., etc. Bon. Dimanche dernier, On demande des témoignages, donc c'est pas il y a 20 ans, hein, dimanche dernier. On demande des témoignages le dimanche après-midi à la réunion d'évangélisation. Et puis voilà, on demande. Et puis elle dit, moi j'ai un témoignage à donner. Pas encore baptisé, hein, je précise. Bon, elle vient, monte au pupitre, et puis elle dit, elle nous raconte que donc ça fait des années qu'elle connaît le Seigneur, mais que son mari n'est pas converti, qu'elle vit des choses difficiles et tout, etc., etc. Et puis elle nous dit, voilà, en fait, il y a eu un moment donné où avec mon couple, ça n'allait absolument pas. Lui, il m'avait dit, moi, je ne veux plus faire d'efforts. Et moi-même, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, j'arrête tout, je ne fais plus d'efforts moi non plus. Mais elle a rajouté, et c'est ce qui l'a sauvé, elle a rajouté, Seigneur, je te laisse mon couple entre tes mains. Heureusement qu'elle a dit ça d'ailleurs. Et puis elle dit, voilà, alors qu'on ne se prenait même plus dans les bras, alors que lui, il avait acté déjà qu'il allait s'en aller, qu'il allait partir, elle avait fait cette prière quelques temps avant, alors je ne me rappelle plus le temps avant qu'elle ait fait cette prière, et puis, donc peu de temps après qu'elle ait fait cette prière, son mari arrive, la prend dans les bras, lui dit, je t'aime, j'ai pas envie qu'on se sépare, j'ai pas envie, et si on se mariait? Et après, vous venez de me dire qu'il n'y a plus de miracles en France? Mais bien sûr qu'il y en a encore des miracles aujourd'hui. Amen. Alors bien sûr, ce n'est pas une jambe qui rallonge. Ce n'est pas quelqu'un de paralysé qui se lève de son fauteuil. Mais moi, je trouve ce miracle tellement beau. Tellement beau. Alors elle avait un grand sourire, elle avait les larmes aux yeux en le racontant, vous imaginez. En disant, voilà, ben, le Seigneur, il a sauvé mon mariage. Et puis là, ça fait 2 mois qu'on est mariés. Elle ne me l'avait même pas dit. J'ai dit, Et puis alors, donc du coup, après, elle me dit, maintenant, je peux me faire baptiser. Bah oui, bien sûr, tu peux te faire baptiser, bien sûr. Voilà. Dieu est tout puissant. Même pour sauver un couple au bord du divorce ou au bord de la séparation. Il y a des moments où nous avons, et ça, c'est le deuxième pouvoir que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, le pouvoir de pardonner les péchés. Vous allez me dire, mais attendez, mais il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Oui, c'est vrai, Matthieu 9, versets 6 à 8 me dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifiait Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir, parce que là, c'est Jésus homme. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité de pardonner les péchés aux hommes? Alors bien sûr, vous pouvez pardonner un péché contre vous. D'ailleurs, la Bible nous invite à pardonner. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne dira, alors qu'il est en train d'être lapidé, ne leur retiens pas le péché qu'ils sont en train de commettre. Ok. Jacques me dit ceci, verset 5. Oui, alors excusez-moi, je me suis trompé au niveau de la référence. C'est Jacques 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est écrit, hein, c'est Jésus qui le dit. Enfin, bon, au travers de Jacques, bien sûr, mais on sent le maître qui parle. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Bien sûr, je parle ici du chrétien rempli de l'esprit. Du chrétien qui sait qui est son maître. Quelqu'un qui a compris que sa vie, elle est entre les mains du Seigneur, elle n'est pas entre ses propres mains. Quelqu'un, en clair, qui est vraiment un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui démontre le fruit de l'Esprit dans sa vie. Et qui démontre aussi que le Seigneur est tout-puissant pour agir. Moi, je suis limité dans beaucoup de choses en tant qu'homme. Mais le Seigneur me donne des capacités qui vont au-delà de ce que même je peux imaginer. Le Seigneur est capable de me saisir à un moment donné et de me donner la capacité d'amener quelqu'un à la repentance. Parce que je suis là au bon moment, au bon instant, que j'ai la bonne parole de Dieu et qui d'un seul coup touche son cœur, affermit son cœur, le détourne de son péché. Ça, c'est le pouvoir que Dieu m'a donné. Et c'est un pouvoir qui va jusque dans le cœur des hommes. Et ça, c'est le plus beau des pouvoirs. Est-ce que vous comprenez que dans vos familles, par les paroles que vous donnez, par le témoignage que vous apportez, vous êtes comme une lumière qui luit dans les ténèbres? C'est compliqué parfois, on se dit « Oh là là, mais si je parle du Seigneur, ils vont me dire ci, ils vont me dire ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça, qu'est-ce que t'en sais ?» Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Oui, il y aura de l'opposition, je ne vais pas vous dire que ça sera un long fleuve tranquille, je vous mentirai. Jésus a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira du mal de vous. » Alors, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, il y aura des persécutions. Ma femme, une fois, elle a été poursuivie par un gars qui brandissait une pelle. Elle dit « Barrez-vous, je vous mets un coup de pelle !» Parce qu'elle mettait des Bibles dans les boîtes aux lettres et qu'elle lui avait demandé s'il voulait prendre la Bible de la main à la main. Voilà. Bon, des fois, les gens nous confondent un peu avec les témoins de Jéhovah. Bon, c'est, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Vous savez, en tant qu'être humain, en tant que chrétien né de nouveau, disciple de Jésus-Christ, quand je viens dans un foyer, j'y apporte la bénédiction. Je ne sais pas si on est vraiment conscient de cela. Alors, il ne faut pas arriver chez quelqu'un en disant « Je t'apporte la bénédiction, alors maintenant, hein, tu me sers. » Non, ce n'est pas ça. Non, non. C'est soyez soumis les uns aux autres. Hein, il faut que vraiment nous apportions la parole, la vraie parole. Y en aurait-il une fausse? Mais disons que la parole, pas truquée, tronquée, à mon goût, à moi. Non, j'apporte la parole du Seigneur. Et parfois, ça nécessite qu'on se taise. Parfois, ça nécessite qu'on arrête. Vous savez, un jour, il y a un frère qui m'a dit, quand tu vas chez les gens, ne prends pas trop de vin. Je l'ai regardé comme ça, j'ai bu que deux verres. C'est pas un crime quand même de boire deux verres de vin à table quand on vous offre du vin. Oui, mais il y a des gens qui sont piégeux. Ils vous poussent à boire et puis après ils vont dire « Ah, oh, les pasteurs, ça picole !» Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est une constante remise en question. Parce que le témoignage que nous portons, alors nous en tant que pasteurs, mais vous en tant que chrétiens, c'est le même. Hein. Et quand vous allez ailleurs, dans la famille par exemple, moi j'avais décidé dès le départ, j'avais dit à mes parents qui n'étaient pas convertis, je leur avais dit, le dimanche, vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous levez à l'heure que vous voulez, nous c'est culte, point barre. On est en vacances, d'accord, mais culte quand même. Oui, mais quand vous venez chez nous, vous pourriez quand même un peu arrêter vos histoires et tout. Je dis non, 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 c'est pas des histoires. Non, 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 non. Non, non, faut bien comprendre les choses. Nous, on est enfants de Dieu. Avant que je sois votre fils dans la chair, je suis l'enfant de Dieu. Et il n'y a pas à transiger. C'est comme ça. Alors, au début, aïe, 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 quand on rentrait du culte, on avait vécu des belles choses, il y avait eu des dons spirituels, les chants étaient merveilleux, le ciel était sur la terre. On rentre à la maison, ça commençait, oui, et pourquoi vous êtes comme ça, et pourquoi vous faites ci, et pourquoi vous faites ça. Ça durait comme ça un petit moment, jusqu'au moment où on était obligé de taper un peu du poing sur la table en disant, bon, c'est bon quoi. Ah ouais, les chrétiens, vous énervez vite. Hein. Oui, c'est vrai, de temps en temps, on s'énerve vite, oui. Troisième pouvoir, le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre selon la volonté du Père. Alors vous savez que Christ a ce pouvoir, il dit Jean 10, 18, « Personne ne me l'ôte, la vie, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Voilà, ça c'est clair, c'est Christ donne sa vie pour le péché. Ok. Maintenant, quel parallèle on peut faire pour nous? Moi aussi j'ai le pouvoir de donner ma vie. Oui, moi aussi j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Alors il faut délimiter un peu ce que je viens de dire, évidemment. J'ai le pouvoir de donner ma vie parce que j'ai le pouvoir de de rentrer dans le salut de Christ et de devenir une offrande vivante. Et une offrande, ça meurt. Hein. Reprenez vos textes, hein, le Lévitique par exemple, c'est l'Holocauste. Voilà. J'ai cette capacité de donner ma vie et de la faire brûler pour Christ. Et puis j'ai la capacité aussi de reprendre ma vie au diable, de lui dire non, c'est fini. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, je suis l'enfant de mon Dieu et toi, tu n'as plus aucune emprise sur moi. Alors lui, évidemment, il va essayer de mentir en disant « Mais si, puisque tu fais ci, mais si, puisque tu fais ça. » Bon, je ne vais pas me mettre à la place du diable maintenant. Il est où il est, il fait ce qu'il veut. C'est son problème avec Dieu. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai le pouvoir de lui dire « Tais-toi. Stop. Je ne veux plus entendre ça. Pars d'ici. Sors de là. » Ça, Dieu m'a donné cette capacité de reprendre ma vie entre les mains du diable. Romains 6, 11, 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà, je veux mourir au péché, mais je veux être vivant pour Christ. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels et n'obéisse pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrez vos membres, ça veut dire les mains, les pieds, la volonté et la marche. Parce que vous savez, il y a des gens qui offrent leur volonté. Il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Hein. Excusez-moi, pas ici, hein, bien sûr. Il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Ils disent, oh Seigneur, je serai ton serviteur. Bon, va évangéliser dans la rue. Non, Seigneur. Il y a la volonté, mais il n'y a pas le faire qui va avec. Je ne dis pas qu'il faut qu'on aille tous évangéliser dans la rue, quoique. Quoique, ça ne nous ferait pas de mal, une fois de temps en temps, de tous sortir. Mais enfin, bon, bref, ça c'est mon avis, je le partage. Même en chaise roulante, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un valide pour venir vous aider. Ce que je suis en train de dire, c'est que le « aller par tout le monde » est fait de toutes les nations des disciples, il n'est pas cantonné au ministère don. Ce n'est pas que les évangélistes qui doivent aller. C'est « aller », c'est dit à tous les disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire que déjà, premièrement, vous devez être des témoins là où vous êtes, auprès de vos voisins, auprès de vos collègues de travail, auprès de votre famille. Vous devez être des témoins. Vous ne les gagnerez que comme ça. Attention aux compromis. Il y a des compromis qui tuent. Quand moi, je fais des compromis, je peux tuer la personne qui est en face et qui me voit faire un compromis. Il faut que je fasse attention à ça, hein. Vous savez, nous on est un peu... Comment on appelle le gars qui ne boit pas dans les fêtes, là? Le Sam. Ben, nous on est un peu les Sam de nos familles. C'est-à-dire, on est un peu les paratonnerres. Il y a quelque chose qui se passe, vous êtes là, et vous avez remarqué, la famille dans ces cas-là, quand il y a des problèmes moraux, des... tourne les yeux vers vous, d'un air de... Comment il va faire, lui? Ou comment elle va faire, elle? Et là, vous êtes là en disant, Seigneur, au secours, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse? Je ne sais pas, Seigneur. Parle-moi vite, là. Ils ont tous les regards braqués sur moi, ça me fait peur. Quelque part, nous sommes un peu ces repères, ces balises du monde. Quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre », qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que partout où vous passez, vous apportez avec vous un témoignage vivant et vrai. Vous avez du goût et vous êtes beau à regarder. Là, il y en a tout de suite. J'ai bien fait, bien me coiffer ce matin et de mettre un peu de maquillage. Non, vous êtes beau à regarder, pas seulement physiquement, bien sûr, vous êtes beau physiquement, mais spirituellement. Quand j'étais visiteur médical, on se retrouvait une fois par an. On avait un congrès entre nous, là. Et puis, souvent, on allait manger au restaurant ensemble. Et puis, évidemment, il y avait des discussions et tout. Et immanquablement, mais alors c'était systématique, hein, j'en avais toujours un à côté de moi qui mettait le sujet sur... Alors, et généralement, bizarre, hein, c'était l'argent. Ah ça, la dîme... Il y en a même un qui a été jusqu'à me dire, mais tu vois, t'aurais pas donné ta dîme, mais ben aujourd'hui, t'aurais une maison. Le diable, vous savez. Voilà, qui vous picote là, qui essaie de vous faire sentir coupable, qui essaie de vous faire sentir petit, misérable, abattu. Dans ces cas-là, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Moi, je redresse la tête. C'est mon truc à moi. Hein. Moi, je redresse la tête et j'agresse. Et je lui dis, qu'est-ce que ça peut te faire? Si j'ai pas de maison, t'en as une, toi? Oui. Et alors, t'es en plein divorce. Tu vois à quoi ça te sert? C'était le cas, en plus. Hein. Sincèrement, vaut-il pas mieux ne pas avoir un peu moins d'argent, mais être heureux et être sûr qu'on va au ciel, plutôt qu'être blindé et avoir une autre certitude, celle d'aller en enfer? Excusez-moi, mais voilà, on en est là. On en est là. Et combien de collègues qui ont essayé de m'agresser à ce moment-là se sont retrouvés peu de temps après dans des panades. Mais vous savez que Dieu est notre garant. Dieu est notre garant. Il n'aime pas qu'on s'en prenne à ses enfants. Il n'aime pas qu'on les maltraite. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui meurent dans les persécutions? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais quand je vois Étienne, comment il meurt, je me dis, Pascal, t'as encore pas mal de boulot à faire. Parce que je suis pas sûr d'arriver à la hauteur de ses lanières, là, dans ce qu'il a fait ce jour-là. Bon, vous allez me dire, il y avait le Saint-Esprit qui l'a aidé. Oui, je veux bien, d'accord, ok, mais enfin, il était en train de mourir, il a dit, Seigneur, ne leur retiens pas le péché. Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Vous savez, des fois, on a des bouffées de sang. Allez, on va aller un peu plus loin dans le pouvoir de ressusciter les morts. Oui, Dieu nous a donné la capacité de ressusciter les morts. Alors bien sûr, encore une fois, pas par nous-mêmes. Moi, si je me mets devant un cercueil et puis j'ai dit « Lève-toi !» Bon, si je n'ai pas reçu une parole du Seigneur, je pourrais lui dire 10 millions de fois. Hein. Surtout si le cercueil est vissé. Bon, remarquez le jour où ça tape. Vous avez une petite... voilà. Hein. Sincèrement, quand mon père est décédé, j'aurais tellement voulu qu'il se redresse à ce moment-là. Vous savez, on a une sœur, je ne crois pas qu'elle soit décédée d'ailleurs, bon, elle doit être assez âgée maintenant, qui s'appelle Madame Larquière, je ne sais pas si vous l'avez connue pour certains ou vous en avez entendu parler. C'est la femme du missionnaire en Côte d'Ivoire, alors je ne me rappelle plus son prénom. Pierre Larquière, qui c'est qui m'a dit? C'est Pierre Larquière? D'accord. Madame Larquière, elle était à l'église de Bordeaux quand moi j'étais jeune étudiant, donc je parle des années 80. Elle nous avait raconté son témoignage, c'est que le jour où son mari est décédé, elle n'a pas accepté. Elle dit, là, mon mari mort, allongé sur le lit, non, 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 non. Elle s'est mise à genoux, elle a dit, Seigneur, tu me rends mon mari. Elle a agressé le juge, quoi, que vous savez, comme dans la parabole. Non, tu me le rends, je ne veux rien savoir, tu me rends mon mari, tu me rends mon mari. Elle a prié, et à un moment donné, tom, son mari se redresse dans le lit. Il la regarde, il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Moi, là où je suis bien. Pourquoi tu me troubles? J'ai fait ce que j'avais à faire et toi, continue à travailler pour le Seigneur. Fais ce que tu as à faire. Il se recouche et il s'endort, dit-elle, parce que je l'entendais ronfler. Donc, je me suis endormi, épuisé de fatigue, et au matin, il était remort. Bizarre comme histoire, quand même, non? Bizarre comme histoire. Et vous dites, mais pourquoi le Seigneur a-t-il permis ça? Vous savez, des fois, il y a des questions comme ça qui taraudent nos têtes, là, qui nous mettent même l'esprit à l'envers, tellement on se pose la question, alors qu'il n'y a pas de réponse sur Terre. Il y en aura une là-haut dans le ciel, mais pour l'instant, sur Terre, il n'y a pas de réponse. Alors, elle a donné sa propre réponse à la chose. Elle a dit, voilà, puisque Seigneur, tu m'as enlevé mon mari, puisque mon mari m'a dit qu'il fallait que je continue son œuvre, alors maintenant, tu me donnes les mêmes capacités que tu lui avais données à lui. Parce que M. Larquière, quand il était en Côte d'Ivoire, il y en avait des miracles et des guérisons. Et des morts qui ressuscitent. Donc, elle a continué comme ça. Et puis, bon, bah, si vous la connaissez un peu, et si vous connaissez un peu les frères de Côte d'Ivoire, ils vous en parleront encore aujourd'hui. Parce que, effectivement, ça a marqué le pays dans les années 80-90. Bon. Aujourd'hui, Madame Larquière, bah, c'est... Enfin, aujourd'hui, encore une fois, je ne sais pas si elle n'est pas décédée, mais bon, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Mais du temps où moi, je la connaissais, un jour, il y a une jeune femme qui arrive avec son enfant handicapé dans une chaise roulante. Elle écoute les chants, elle écoute la prédication. Bref, il y a l'imposition des mains, elle arrive. On prie pour son enfant. Bon, elle s'en va, l'enfant n'est pas guéri, il ne se lève pas de son fauteuil. Et puis, elle remonte l'allée et le frère qui l'avait amenée la présenter un peu aux gens. Et puis, on arrive, il arrive avec Madame Larquière. Moi, j'étais juste à côté de lui, donc je l'ai vu en direct. Ça, hein. Et puis, il présente à Madame Larquière. Il dit, voilà, c'est Madame une telle. Elle vient pour la première fois. Madame Larquière tend la main, regarde dans les yeux. Elle lui dit, vous, vous n'êtes pas toute seule, la femme. Poum. Elle était, elle faisait, comment dire, voyance et compagnie, quoi. Bon, bref. Donc, bah, on a prié pour elle, ok, voilà, hein, c'est bien sûr, bien évidemment. Mais c'est tout ça pour vous dire jusqu'où le Seigneur va avec nous. Il va très loin avec nous, très très loin. Encore faut-il que nous soyons dépendants de lui, mais ça, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Et je me dis, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose en nous qui bloque. Alors, on va lire ce texte-là, Jean 11, 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, vous savez, on est dans la résurrection de Lazare. Hein. Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, écoutez bien ce qu'il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc déjà, il est ressuscité, Lazare. En perspective, là. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Bon, là, j'ai du retard à rattraper. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. D'après vous, pourquoi Jésus peut dire « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Là, c'est la question qui... c'est pas la question à 1000 euros, hein, je ne les ai pas. C'est juste la question. Pourquoi Jésus peut-il dire « Je sais que tu m'exauces toujours. » Ne me dites pas, c'est parce qu'il est Dieu. C'est pas parce qu'il est Dieu que le Père l'exauce toujours. Parce que là, il est homme. Il le dit en tant qu'homme. Il ne le dit pas en tant que fils de Dieu. Parce qu'il fait toujours la volonté de son Père, c'est écrit ailleurs. Eh bien, le barrage, il est là avec moi. C'est que je ne fais pas toujours la volonté de mon Père. Et donc, par voie de conséquence, parfois, je bloque la bénédiction de Dieu. Un jour, j'étais dans la rue, et puis, sincèrement, hein, je vous dis, je ne suis pas un mystique, hein, faut bien que vous compreniez ça. Hein, mais il m'arrive de temps en temps que le Seigneur me parle. Je ne sais pas à vous, hein, mais moi, il m'arrive quand même que de temps en temps, le Seigneur me parle. Là, je marchais dans la rue, je passe devant une maison de retraite, je vois une femme d'un âge certain, je ne sais pas, je ne vais pas demander ses papiers, hein, et mais avec une jambe, ça faisait un S, un gros trou comme ça dedans. Et le Seigneur me dit, va lui imposer les mains.
Non.
Va lui imposer les mains.
Non.
La peur. Et vous savez que la peur, elle vient du diable. Hein. Le diable, là, il s'est frotté les mains ce jour-là, parce que j'ai eu peur. Mais quand le Seigneur vous le dit, pourquoi avoir peur ? Maintenant, je peux faire le patron, maintenant, hein, mais à l'époque, je ne le faisais pas, le patron. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais si j'y vais et qu'elle n'est pas guérie, tout le monde va se fiche de moi. Vous savez ? Et là, le diable rentre dans vos pensées et il vous met plein de petites mauvaises choses comme ça dans la tête afin que vous soyez un perdant. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce jour-là. J'arrête pas de lui demander pardon. Bon, je pense qu'un jour, je le serai. Mais c'est vrai, à chaque fois que je raconte ça, je le raconte pour vous expliquer que si on ne fait pas gaffe à vraiment toujours être dans la volonté de Dieu, on perd du terrain. On perd du terrain. Moi, je peux être obéissant et je peux même être obéissant jusqu'à la mort et Dieu me le rendra. Parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu ne doit rien à personne, si vous préférez, dit autrement. Dieu sait ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Dieu sait ce que vous dites, il l'entend, ou ce que vous ne dites pas. Dieu sait quand vous êtes au top et quand vous êtes en dessous. Dieu sait, donc ne vous y trompez pas. N'allez pas lui faire un plan à l'envers, c'est pas possible. Dieu sait. Donc à partir du moment où nous, on a ça dans notre tête, peut dire, mais écoute Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que moi, je peux rien. Mais sur ta parole, pas sur la parole d'un homme, hein, sur ta parole, lève-toi et marche. Ça change tout, hein ? Ça change tout. Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Excusez-moi, j'image les choses, mais c'est comme un lien qui nous relie au ciel, déjà, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons déjà une part au ciel. Nous avons déjà, je ne sais pas le dire, la racine des cheveux au ciel, je ne sais pas comment l'imager, cette chose, mais déjà, c'est une promesse, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, si Christ nous l'a dit, ça s'accomplira. Mais à moi de rester dans le cadre bien établi et bien défini du Seigneur. Je vais m'arrêter là maintenant parce que je voudrais qu'on termine sur cette pensée. Tu me mets les deux derniers versets. Matthieu 28, 20. Je ne sais pas si tu l'avais pris. Bon, c'est pas grave, vous le connaissez tous, vous savez, c'est dans le texte où on commence par « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Voilà. » Et puis ensuite, il dit « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est là l'eau de la vie éternelle qui jaillit. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Et je ne peux pas transmettre plus que ce que j'ai reçu, parce que déjà, ce que j'ai reçu, c'est un absolu. C'est la vie éternelle. Vous connaissez-vous quelque chose de plus que la vie éternelle ? Non, si vous savez, dites-le moi. Mais moi, non, dans la Bible, le plus beau des cadeaux que Dieu nous fait, c'est la vie éternelle. Mais pas n'importe quelle vie éternelle, parce que ça pourrait être une vie éternelle loin de lui, et ça s'appelle l'enfer. C'est une vie éternelle dans sa présence. Apocalypse, tu me mets Apocalypse maintenant, s'il te plaît. Et soulignez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le dernier texte, donc, c'est dans Apocalypse 21, 3. L'avais-tu noté ? Voilà. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Il y a toujours une séparation entre l'homme et Dieu. Parce que nous ne pouvons pas voir la face de Dieu et vivre, me dit le texte biblique. Mais Dieu veut résoudre toute chose, puisque dans le jardin d'Éden, il se présentait tous les soirs Adam et Ève. Mais pourquoi ? Mais parce qu'à cette époque-là, ils étaient sans péché. Alors on peut toujours dire, c'était l'ange de l'Éternel qui se présentait, c'était l'image du Dieu invisible. Oui, ok, d'accord. Mais la volonté de Dieu, c'est d'habiter avec son peuple et pour l'éternité. Alors oui, je ne suis pas à la hauteur. Oui, je suis nul, non avenu, biffé, tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous donner tous les qualificatifs négatifs que vous avez dans la tête. Ok, d'accord, mais arrêtez. Stop. Parce que maintenant, Dieu nous dit une chose. Il nous dit, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et ces choses anciennes là, qui t'ont maintenu dans l'abdication, tu avais abdiqué ta nature céleste. Eh bien, maintenant, Dieu dit « Stop, c'est fini !» Les choses anciennes sont en train de passer totalement. Ce n'est pas encore fini, il y a encore deux, trois bricoles à faire, mais ça va venir. Et maintenant, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont en train de devenir nouvelles. C'est-à-dire que Dieu t'amène dans le ciel petit à petit, il t'élève, jusqu'à le voir comme Étienne, debout, en train de l'attendre. Vous avez remarqué que à chaque fois qu'il est parlé du Christ, dans d'autres textes, à ce niveau-là, il dit qu'il est assis à la droite du Dieu céleste. Ce jour-là, Étienne a vu Jésus debout. Et pourquoi ? Mais parce qu'il fait comme le Père. Il vient accueillir son enfant. C'est comme dans le Fils prodigue. Le Père, il attend. Oui, il n'a pas été au devant, quoique pour nous, il a envoyé Christ. Mais il attend le retour. Il attend à la porte, il a fait un pas, à nous de faire le suivant. J'irai voir mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'il nous attend pour nous revêtir, pour nous rétablir dans la dignité d'enfant de Dieu que nous avions perdu en Éden et pour faire de nous comme des dieux. Je reviens à l'expression du départ, parce que dans le ciel, quand nous serons là-haut, dans la Jérusalem céleste, les natures seront confondues. Alors, on se reconnaîtra peut-être. Alors, vous savez, ça, c'est des questions métaphysiques. À chaque coup, j'y ai droit en temps. Quand on fait des questions-réponses, on se reconnaîtra là-haut. C'est pas le problème, mon frère, ma sœur. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'y arriver. Ça, c'est ton problème. Si on se reconnaîtra là-haut, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. La bonne question, c'est est-ce que tu vas y aller ? C'est là-dessus que tu dois veiller. Parce qu'on s'inquiète, on se dit oui, mais est-ce que je reconnaîtrai mon mari ? Est-ce que je reconnaîtrai mon enfant ? Inquiétable pour les choses qui sont inquiétables. Excusez-moi, je fais des néologismes, j'aime bien utiliser des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. Oui, tu dois t'inquiéter pour ta vie éternelle. Tu dois t'inquiéter pour ta vie éternelle. Là-haut, laisse faire Dieu. Parce que Dieu est juge. Et vous savez que si toute larme est séchée dans le ciel, c'est écrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas pour nous faire pleurer sur quelqu'un qui est resté en arrière. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. La chimie des corps éternels m'est inconnue. Je suis désolé, j'ai fait biochimie, mais ça, je ne le connais pas. Ça fait partie des choses de Dieu. Ce n'est pas de la physique quantique, c'est de la physique divine. C'est de la chimie divine. Ça, on ne sait pas comment, pourquoi et comment ça va se passer. La seule chose que je peux vous affirmer, c'est que là-haut, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus toutes ces choses. Parce que ça, ça fait partie de la terre. Dans le ciel, ce sont des choses célestes. Et nous serons tellement heureux d'être réunis avec notre Père Céleste qu'il y aura bien des choses que nous laisserons en arrière. Qu'il y a bien des choses dont nous n'aurons plus conscience. Parce que ça serait vain d'y penser, ça serait vain de pleurer là-dessus. Bien sûr, sur terre, on s'inquiète de nos enfants qui ne sont pas convertis et qui font n'importe quoi éventuellement. Moi, je m'inquiète de ma mère qui touche et qui bricole avec des choses. Bon, des fois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce livre de chiromancie ? C'est de la divination, ces choses-là. Arrête ! Je t'ai lu Deutéronome 18, ça fait 10 fois que je te le lis. Et t'as toujours pas compris que là, c'est mauvais, ces choses-là. Et ben non, on y replonge et on y retourne. Et des fois, on a des parents, on a des enfants, on a des connaissances et on se dit, mais ils vont en enfer, est-ce qu'ils s'en rendent compte ? Ben non, ils s'en rendent pas compte. On a beau leur dire, bon, oui, on s'inquiète sur la terre, mais là-haut, ça sera fini, ces inquiétudes-là. Parce que sinon, excusez-moi, c'est plus le paradis. Si on doit vivre dans la rancœur, dans l'amertume, dans les... Ben, ça, c'est comme ceux qui vous disent « Oh, mais Dieu aime tout le monde, on ira tous au paradis. » Ben, je leur dis, moi, excusez-moi, mais passer l'éternité avec Hitler, Pol Pot, Staline et compagnie, c'est pas le paradis, ça, c'est l'enfer. Hein. Soyez un peu logique avec vous-même. Ah oui, mais eux, ah, donc vous voyez bien qu'il y a un enfer. Vous savez, des fois, les gens, il faut les prendre à contre-pied, il faut leur ramener à leur inconséquence. L'enfer, c'est toujours pour les autres. Ouais, ben, si tu fais pas ce que tu dois faire, ça sera aussi pour toi. Et ça, il faut tous qu'on le comprenne. Alors nous, on a donné notre cœur à Jésus, on a l'assurance, l'Esprit nous dit qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Ça veut juste dire que voilà, l'Esprit confirme que notre conscience est réveillée, qu'elle travaille pour nous, qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Mais à côté de nous, il y a tellement de gens qui croient, qui pensent, que parce qu'ils ont fait une offrande, parce qu'ils ont donné à manger à quelqu'un dans la rue, parce qu'ils ont fait ci ou ils ont fait ça, ils iront au paradis. Ben, eux, il faut les détromper, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et on le sait tous, ça. Mais c'est par ton esprit et c'est par le moyen de la foi que j'arriverai là-haut. Ma foi, elle est personnelle. Je sais en qui j'ai cru. C'est pas la foi de papa, ni de maman, ou de tonton, ou de grand-papa, ou de grand-maman. C'est pas la foi des autres, c'est ma foi à moi. Il y a eu un don spirituel, c'est pour ça que j'insiste là-dessus maintenant, parce qu'il y a eu un don spirituel qui parlait à quelqu'un tout à l'heure en lui disant « Attention, tu mets tes pieds où là ? Venir à l'église, c'est bien, c'est pas ça qui sauve. C'est bien de venir à l'église, hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, j'aime bien prêcher à une salle pleine, hein, mais c'est pas ça qui sauve. De toute façon, il y aurait une personne, je prêcherais quand même. C'est pas le problème ça. Mais à celui qui a entendu ce don spirituel, qui te dit que c'est pas la dernière fois que Dieu te parle ? Connaissez une jeune fille, un fils de pasteur qui vivait... Il était fils de pasteur, mais alors bon, à côté de ça, la vie qu'il vivait n'avait rien de pastoral. Et puis, il a rencontré une jeune femme qui n'était pas convertie, donc il l'a amenée à la maison. Et là, papa et maman se sont empressés de lui parler du Seigneur. Et là, au miracle, la jeune fille, en main de témoignage, elle se convertit, elle donne son cœur à Jésus, il prie pour elle, elle rentre à la maison. Elle range toutes ses affaires dans la chambre. La mère, elle arrive et dit « Ta chambre est rangée ?» Mais c'est un miracle. Oui, il y a eu un miracle. J'ai rencontré Jésus. Je crois en Jésus. Waouh. L'équipe, là, ils sont en voiture. Ils sont quatre gars. Ils viennent la chercher pour aller en boîte de nuit. Vous allez me dire, elle n'aurait pas dû y aller. Oui, ok, mais enfin bon, elle venait juste de se convertir. Elle ne savait pas, elle. On ne lui avait pas dit. Elle monte dans la voiture. La voiture, poum, un pilier. Le pilier tombe. Les quatre gars, pas une égratignure, elle, sang. Comme si c'était le doigt de Dieu. Chou. En évangélisation, j'aime bien raconter cette histoire. Parce que j'aime bien voir sur les têtes le... Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. On vit dans un monde aujourd'hui. Je connais un frère, il a tiré la chasse d'eau, pouf, rupture d'anévrisme massive. Il venait d'appeler le pasteur, vous voyez comme quoi, hein, on n'est pas tout puissant. Hein. Il venait d'appeler le pasteur, là, tchop, mort. Le médecin a dit, avant qu'il ait touché le sol, il était mort. Je ne peux pas dire, oh, demain, je verrai si je suis en forme pour donner mon cœur à Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hein, parce que vous ne maîtrisez pas demain. Demain appartient à Dieu. Pas à vous. Donc, à celui qui a, ou ceux qui ont entendu ce don spirituel, remettez tout en ordre, c'est le temps de Dieu. Amen. On peut incliner nos têtes ? Seigneur notre Dieu, nous croyons en ta grâce, Père éternel, et nous savons combien il est important de donner notre vie et combien il est important de garder aussi cette vie en toi. Parce que c'est en toi que nous pouvons aller plus loin, que nous pouvons abonder dans toutes les choses que tu nous promets. Seigneur mon Dieu, comme tu le dis dans ta parole et comme l'a dit notre frère, je sais en qui j'ai cru. Paul disait cela dans ce qu'il écrivait, je sais en qui j'ai cru. Je veux dire, oui Seigneur, je m'empare de cette parole et je dis, oui, je sais en qui j'ai cru. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas ce qui se passera demain, je ne sais pas si demain on ne me persécutera pas et on ne me mettra pas à mort. Je ne sais pas, ces choses-là, je ne les maîtrise pas, mais je sais une chose, c'est que tu m'as fait une promesse. Vous serez avec moi dans l'éternité. Et cette promesse, je sais que tu n'es pas un homme pour la reprendre. Tu es le Dieu tout-puissant et vrai. Et aujourd'hui, tu es celui qui nous parle. Peut-être à quelqu'un, tu dis, voilà, les dons spirituels que tu donnes, que tu apportes à l'Église, il faut que tu pries pour qu'ils soient plus précis, qu'ils aillent droit au cœur. À un autre, tu n'as pas encore prié pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et tu vois, ce revêtement de puissance te manque pour être témoin. À un autre, il va dire, mais tu vois, regarde dans ta vie, tu as tellement fait de compromis qu'aujourd'hui, regarde où tu en es. Les gens ne croient même plus que tu es un chrétien. Peut-être à quelqu'un dira-t-il ce matin encore, si seulement tu savais quel est le don de Dieu et celui qui te parle ce matin, tu dirais, oui, donne-moi cette eau qui vient du ciel, donne-moi à boire. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour tous ceux à qui tu parles ce matin et qui ont besoin dans leur cœur de changer les choses dans leur vie, de prendre une nouvelle direction. De se regrouper pour dire, voilà, ça y est Seigneur, maintenant je veux croire en toi, je veux donner ma vie, te donner ma vie, je veux aller plus loin avec toi, je veux que tu puisses me saisir Seigneur. Et puis pour beaucoup d'entre nous, c'est juste tout simplement qu'on a besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Comme nos frères et nos sœurs qui priaient après que Pierre et Jean aient été relâchés et ils priaient d'un seul coup, le lieu où ils étaient se mit à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé moi aussi Seigneur, dans ma prédication Seigneur, dans ce que je dis. Mais je sais que mes frères et sœurs ont besoin aussi d'être renouvelés dans leurs dons spirituels, dans leur vie de tous les jours, dans leur témoignage. Seigneur, nous avons tous besoin à un moment ou à un autre que tu nous relèves et que tu nous emmènes plus loin avec toi. Saisis-toi de nous Seigneur et nous ne voulons nous écarter ni à droite ni à gauche du chemin que tu nous as tracé. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre Seigneur. Et nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Mais au secours, Seigneur, garde-nous dans la paix et dans la joie. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas ça comme une phrase toute faite. Je dis vraiment que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont entendu la voix du Seigneur, c'est le temps de la bénédiction. Amen.